Un livre est un objet digne de respect.
Absolument.
Comme un in-folio.
Pardon pour ce petit raté.
Oui, et j'ose le dire, tout fout le camp. Les bonnes manières disparaissent. On entre au théâtre sans payer. Pire, on en profite pour de solliciter audience auprès du président de la République, sans avoir au préalable fait porter un pli par un commissionnaire. Outrage suprême, on arrive sans redingote, pantalon clair et gants demi-teinte. Une honte, monsieur. Il est grand temps que l'autre radio soit le fer de lance, que dis-je, l'obus, mieux encore, l'ogive nucléaire d'une nouvelle éducation. Il faut que ça pète et que ça explose. Alors j'ai sorti de ma bibliothèque le guide des convenances, savoir-vivre, obligations sociales, usages mondains et notes intimes, un ouvrage de Lieselotte. C'est un ouvrage non daté, mais qui est d'entre les deux guerres, 1930 aux environs. C'est un format in 12, 13,3 par 18,4 cm, édité par la société anonyme du Petit Écho de la Mode, 442 pages. La couverture et la coiffe sont en carton épais, toilé, bleu, sombre, sauf le mien qui a été complètement insolé, maintenant il est bleu ciel. Sur la couverture, dans un cadre doré, est écrit le nom de l'auteur, puis le titre et le libraire. Sur la coiffe, entre deux petits motifs, le titre de l'ouvrage. Le papier est un vélin correct, comme le disait Jean-Pierre. Primitivement, je voulais m'intéresser à la baronne de Staff.
Comment va-t-elle ?
Mais justement, je vais t'en parler. Elle a beaucoup écrit sur les usages du monde et les règles du savoir-vivre à la fin du XIXe siècle, mais pas moyen de mettre la main ni sur elle, ni sur les exemplaires de ses livres. Alors je me suis rabattu sur Lieselotte. Aucune certitude sur qui est cette Lieselotte. On ne sait pas qui c'est. Probablement le pseudonyme d'une certaine Mademoiselle Bouvard. En tout cas, son livre a eu un très grand succès, car il est arrivé à un moment où les conventions mondaines cherchaient ses codes et pour cause. Je vais te lire une petite partie de son introduction à nos lectrices, et c'est un livre qui est destiné aux femmes. Au lendemain de la Grande Guerre qui a bouleversé le monde, nous avons compris qu'il fallait présenter au public une nouvelle édition de notre guide des convenances, complètement remaniée et inspirée de l'esprit nouveau. Le cataclysme général, qui a changé tant de choses, ne pouvait laisser debout l'édifice ancien et compliqué de notre code de politesse. Ce n'est pas seulement dédain pour les subtilités d'autrefois, c'est aussi révolte contre toutes les entraves. Nous prétendons nous épanouir librement, en dehors de la vexation des règles nombreuses, et nous réclamons la liberté de nos sympathies et la franchise de nos impressions. C'est quasiment la révolution.
C'est bien.
Ceci dit, une vie mondaine à l'époque, même en 1930, est une vie à plein temps. Suivant son niveau social, la maîtresse de maison peut être amenée à changer de toilette plusieurs fois par jour. Dans la haute société, elle reçoit souvent une fois par semaine, à date fixe, pour faire salon. Dans les meilleurs cas, sont invités les hommes influents seulement. Les littérateurs, les politiques, les scientifiques, etc. En tout cas, concernant ce livre, tout ce qui fait une vie y est prévu. De l'organisation de dîners dans les tignes à la campagne, et la taille des cartons de correspondance suivant les circonstances. En témoignent d'ailleurs les têtes de chapitre de la table des matières que je ne vais pas vous réciter car elle fait 6 pages. Donc je vous donne que les gros titres. Il y a la vie domestique avec le mariage, la naissance, l'adolescence, la première communion, et ça se termine évidemment par le deuil. Puis la vie mondaine avec les réceptions, les rapports mondains, la vie au dehors, et on verra à la fin les nouveaux pauvres, les nouveaux riches, etc. Mais passons maintenant à votre formation, et je crois que vous en avez bien besoin. La demande en mariage. Toutes les questions étant débattues et tranchées, ça c'est à l'extérieur, il reste à faire la demande officielle. Elle est présentée par le père du jeune homme. Il est en jaquette, pantalon fantaisie, cravate fantaisie, gants chamois et chapeau haut de forme. Je sais comment mes grands-parents ont conversé, et effectivement, ils ont bien reproduit ce schéma-là. Et on a même la suite de ce qu'il a dit, etc. Non, on n'a pas le temps, c'est dommage, parce que c'était vraiment très intéressant. Quelle est la différence d'âge acceptable entre deux époux ? Et alors là, attention, y voir une quelconque similitude avec un cas existant serait un pur hasard. Au point de vue physique, il est préférable que la femme soit plus jeune que l'homme, parce qu'on exige d'elle plus de beauté et parce que les années sont plus impitoyables au charme féminin. L'homme demeure plus longtemps séduisant parce qu'il demeure fort, tandis que la fraîcheur, la grâce, la svelte souplesse appréciées dans la jeune fille disparaissent assez vite avec l'âge. À ce point de vue, une différence de 5 à 10 ans au bénéfice de l'époux est très recommandable. Comprenne qui voudra. L'éducation morale des enfants et des adolescents, et ça, je crois que c'est encore vrai. L'éducation actuelle participe de la veulerie générale, 1930, nous l'oublions pas. Nous voulons leur faire la vie très douce, nous voulons augmenter la somme de leurs plaisirs, et au lieu de les abandonner à leur saine gaieté naturelle, nous nous ingénions à multiplier autour d'eux des distractions compliquées, comme il en faut à nos imaginations lassées et à nos esprits blasés. Ça, c'est encore vrai. Passons à la vie mondaine maintenant, les dîners priés. Un dîner prié, c'est un dîner où on invite les gens. Un homme dans une position de fortune modeste ou dans une condition sociale inférieure n'invite pas une personne plus haut placée que lui. S'il a été invité le premier, il n'est nullement tenu à la réciproque. Les invitations pour les dîners de cérémonie, une quinzaine de jours à l'avance, se font par écrit. Les invitations au repas de grande cérémonie, attention, grande cérémonie, sont imprimées sur grand carton et se rédigent ainsi. Monsieur et Madame Bernard Laurent prient Monsieur et Madame Jean-Tuc Delreboul de leur faire l'honneur de venir dîner chez eux le 5 février et en bas à gauche l'adresse, en bas à droite l'heure. Ces invitations sont dites priées et comportent donc la mise de l'habit et de la toilette décolletée. Voilà. Justement, à propos de toilette, depuis que nous suivons les mœurs anglaises, nous avons adopté pour le soir la tenue de dîner beaucoup plus cérémonieuse. Les tenues les plus habillées, donc de premier ordre, sont, pour les hommes, l'habit, cravate blanche, gants blancs, souliers vernis, décoration. Pour les femmes, toilette décolletée avec bijoux dans les cheveux. La robe est en soie, en velours, en satin, garnie de broderies, de dentelles ou de perles. En second ordre, le smoking, avec cravate noire pour les hommes, pour les femmes, la toilette décolletée ou mi-décolletée. Et en troisième ordre, alors seulement, la jaquette avec cravate fantaisie pour les hommes et pour les femmes, le demi-décolleté. Ah, une chose importante, et on oublie ça trop souvent, à qui offrir le bras ? Quand on arrive dans la salle de réception. Lorsqu'il s'agit d'un grand dîner, les invités trouvent dans l'antichambre des cartes sous enveloppe à leur nom. Ces cartes sont ainsi libellées. Monsieur Reboul est prié d'offrir son bras à Mademoiselle Jarry. J'espère qu'elle écoute. Monsieur Reboul priera le maître de maison en aparté ou un ami intime de lui désigner Mademoiselle Jarry, forcément. Dans les quelques minutes qui précèdent le dîner, la maîtresse de maison doit avoir soin de présenter les convives l'un à l'autre, non seulement par leur nom, mais encore en ajoutant un qualificatif indiquant leur profession, leur manière d'être. C'est ainsi donc qu'elle dira « Monsieur Reboul, le littérateur distingué, l'auteur si connu de la chronique In Folio, et parlant de Mademoiselle Jarry, celle que vous avez applaudie sur les planches du théâtre des Ursulines. » In situ, tout ça. Visite de charité. Parce que quand même, il faut rester...
On a nos pauvres.
Exactement. Pour les visites de charité faites à des personnes indigentes, il importe de s'astreindre à les faire à date déterminée, afin de ne pas les surprendre dans les travaux humbles qui les mettraient mal à l'aise, et aussi pour leur donner le stimulant de la visite prévue, qui les pousse à approprier et à orner leur logis. On parle aussi d'ailleurs des ouvroirs mondains, mais on n'a pas le temps. Et on va terminer par le labeur obligatoire. J'ai bien aimé celui-là. Les nouveaux pauvres, évidemment, oui. Après la guerre, sont pour la plupart obligés de travailler, les pauvres. Qu'ils acceptent cette nécessité avec un sage orgueil. Ils éprouveront quelque amertume à faire des démarches, à présenter des requêtes, à solliciter un emploi. Mais la situation étant obtenue, ils ne manqueront pas de s'y faire vite apprécier par leur bonne volonté. Le plus adroit sera de conserver la grâce des manières et tout le luxe de politesse que la fortune favorisait. Ce sera la plus noble façon de demeurer supérieur aux fluctuations de la fortune dans une situation devenue besogneuse.
Comme un in-folio.